Bonjour à toutes et tous, pour ceux qui nous ont rejoints, ou rebonjour pour ceux qui étaient là déjà dès midi. Dans le cadre de ce festival Midi-Minuit Poésie, on a sur cette scène, baptisée Scène Jet à cause d'une radio associative locale, quelques moments de rencontre et de discussion. Et après la première discussion qu'on a eue tout à l'heure aux alentours de 13h45, cette deuxième discussion, puisqu'il y en aura une troisième, s'intitule « La fabrique du texte » et qui rassemble deux auteurs invités pour ce festival Midi-Minuit Poésie, Benjamin Fouché, que vous venez peut-être de voir dans le salon de musique, et puis Hervé Letellier, que vous verrez tout à l'heure dans le cadre de ce festival. Et ensemble, on va évoquer la fabrique du texte. Alors, sur la diapositive qui est ici, il y a une erreur, mais c'est normal, il y a deux Benjamins. Benjamin Adam est le dessinateur qui accompagnait Benjamin Fouché ici présent. Donc soit on prenait comme point d'appui la photographie ici présente, soit on prenait le nom de famille. Je ne sais pas. Si Benjamin Adam est par là, il peut venir nous rejoindre. Il y a de la place pour un troisième invité pour discuter peut-être de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire Merveille du monde, que vous venez de voir probablement au salon de musique. Benjamin Fouché, accompagné de Benjamin Adam, qui proposait de la bande dessinée en live. Et Hervé Letellier, on vous retrouve tout à l'heure dans le cadre de ce même festival au Salon de Musique pour les Contes Liquides de J'aime Montestrella, et probablement que je le prononce mal, à 18h30, une lecture-conférence que vous allez donner. Alors, pourquoi la fabrique du texte? Parce que même si, évidemment, vous avez chacun votre manière de travailler le texte, de l'écrire, mais il y a quelques points communs dans une approche et un certain amusement dans la fabrique du texte, dans le sens de fabriquer de manière physique peut-être, et ça vous allez nous le dire, du texte, comment on l'agence, comment on découpe, comment on monte, comment on assemble des textes qui parfois sont fragmentés, qui parfois sont comme des jeux de pistes ou des labyrinthes, et puis peut-être la fabrique dans un sens presque artisanal, comme une usine, une fabrication de textes qui pourrait se faire de manière... si ce n'est industriel, en tout cas dans une certaine logique d'avancer sur un épuisement possible du texte. C'est un peu ce que j'ai relevé dans vos ouvrages. Encore une fois, pour cette discussion, je vais simplement m'attarder sur les Contes Liquides de Jaime ou Reim, peut-être Montestrella, d'Hervé Letellier, et Merveille du monde de Benjamin Fouché. Mais vous pouvez, sur la table de vente de la librairie Durance, voir bien d'autres ouvrages des deux auteurs. Alors, peut-être cette question même de fabrique et cette définition du mot fabrique que j'ai tenté un peu maladroitement de poser ici, est-ce que ça vous évoque quelque chose, Hervé ou Benjamin, sur une manière de procéder, une manière d'écrire?
Oui, en tout cas, le mot fabrique n'est pas un mot qui me dérange. De manière générale, je pense que les auteurs se situent du côté de l'artisan, du potier, ou de la marqueterie, ça dépend du type de travail qu'on fait, beaucoup plus que du côté de l'artiste. Donc l'idée de fabrique, l'idée de la notion un peu justement manipulatoire, fabricatoire, me dérange pas du tout. La notion industrielle me dérangerait un peu plus, mais la notion en tout cas artisanale me semble logique. Il y a deux notions dans la fabrication. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du processus, et qui là peut vraiment être individuel, dépend entièrement de la manière dont les auteurs abordent leur travail, et ça dépend également du type de travail qu'ils font, parce qu'on fait pas du tout le même travail selon qu'on écrit. Moi, je suis dans différents univers, ça va du roman en passant par la forme courte comme celle-là, en passant par le théâtre, la poésie, et on travaille pas du tout de la même façon selon le type de texte qu'on est amené à élaborer. Donc c'est aussi une notion importante. Un texte de théâtre, par exemple, très souvent, c'est quelque chose qu'on élabore en fonction des acteurs qui vont le porter. Et on réfléchit avant tout à justement ce qu'ils vont, eux, apporter au texte, justement de manière aussi fabricatoire, qui nous évite de mettre dans le texte que eux vont incarner. Et c'est quelque chose qui est intéressant dans ce type de travail, parce qu'on sait que ce texte, ultérieurement, sera... porté par deux personnes, l'auteur et l'interprète. Et donc c'est un travail très, très différent par rapport au travail d'écriture, où on est seul dans un rapport un peu de complicité, on va dire, avec un lecteur. Mais en tout cas, on est seul à écrire le texte du lecteur, même si le lecteur n'a pas forcément le texte de l'auteur en tête, c'est pas forcément la même chose, mais en tout cas, on est seul dans ce rapport. Voilà. Ce sera la première chose. Après, je reviendrai sur, peut-être plus tard sur des notions de manipulation du texte et de manière dont, justement, il n'est jamais achevé avant d'être publié.
Benjamin Fouché, sur cette question de la fabrique.
Sur la question de la fabrique, ce que dit Hervé, je le rejoins tout à fait. J'ajouterais pour moi que la fabrique, c'est aussi l'expérimentation. Enfin, c'est quelque chose qui joue énormément. Il y a le côté artisanal, c'est vrai, mais il y a le côté aussi expérimental. Voilà, qui est, c'est-à-dire, quand je fabrique un texte, je n'ai pas de modèle préétabli. Voilà. Le modèle vient... La forme n'est pas préexistante. Elle va apparaître au terme d'un travail, justement, c'est ce travail de fabrique qui est une expérimentation et qui est une forme d'invention de la forme dans le mouvement même de l'écriture. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. Donc un artisan, oui, mais pas qui reproduit une forme préexistante, plutôt qui invente sa forme en tâtonnant, en expérimentant. Voilà. Ce qui est plus ou moins thématisé dans le livre avec le laboratoire figure commune contre fiction qui propose différents protocoles justement de fabrique. Voilà. Enfin, la fabrique est exhibée dans le livre, je pense, assez clairement.
La question du laboratoire, elle est intéressante en effet, de l'expérience presque du précipité de littérature. Évidemment, Hervé Le Tellier, vous êtes connu pour ce travail de longue date autour de l'Oulipo, de l'ouvrage de littérature potentielle et de toutes les mécaniques que ça induit, en tout cas les contraintes qui permettent la créativité. Benjamin Fouché, vous n'êtes pas à ce point assimilé à l'Oulipo, mais j'imagine que c'est des mouvements qui ont pu vous intéresser ou vous parler. La question de se poser une contrainte pour stimuler quelque chose au-delà du récit, mais plutôt pour rentrer dans la forme du texte, est-ce qu'elle est évidente et nécessaire à chaque fois?
Je vais reprendre ce qu'a dit Benjamin. Je ne sais pas si c'est un désaccord, parce que je ne vais pas m'avancer sur une discussion qu'on n'a pas encore eue, mais je n'ai pas a priori contre la forme. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas de me dire « je vais faire un sonnet, je vais faire une villanelle, je vais faire prendre une forme ancienne, une nouvelle, faire un haïku ». Je trouve que dans la gangue, dans le carcan de la contrainte, il peut y avoir en fait une source de jaillissement intéressant. Et c'est-à-dire que j'ai un rapport à la contrainte qui est celui d'une compression sur le langage volontaire et qui peut m'intéresser. Pour prendre une métaphore que j'utilise souvent, que je finis par trouver usée, mais si vous ne la connaissez pas, elle sera au moins neuve pour vous, mais pour moi elle est vieille, mais elle me paraît juste. Si vous prenez le langage comme une sorte de filet d'eau qui sort d'un tuyau d'arrosage. Voilà. Et si vous décidez d'arroser votre jardin, si vous appuyez sur le bout du tuyau, vous allez plus loin, parce que simplement la pression exercée permet que le jet soit plus rapide, et donc on atteint les 4 mètres des bégonias, alors que sinon on atteint simplement les 1,50 m. Du parterre de violette qui n'a aucun intérêt. Voilà. Et donc c'est un peu ça mon rapport au langage, c'est-à-dire que de temps en temps, je trouve qu'il y a quelque chose de fécond dans l'utilisation d'une contrainte extrêmement dure. Il y en a qui ne m'intéressent pas du tout à l'Oulipo. Hein. À l'Oulipo, chacun a ses choses. Moi, l'anagramme, je m'en contrefous. La disparition de Georges Perec, je trouve ça très amusant à lire. Mais écrire sans la lettre E, je le fais dans des hommages, mais ça dure 3 lignes. Et au bout d'un moment, je me lasse. J'aurais jamais écrit un roman. En revanche, l'utilisation d'une forme sur toute une série de textes, 50 haïkus, 40 haïkus, 80 sonnets, des villanelles, en veux-tu, en voilà, ça ne me dérange pas parce que je trouve que ce que je veux exprimer à un moment donné, que ce soit la tristesse, que ce soit le deuil, que ce soit... l'amour, que ce soit n'importe quelle expression de nature, disons, intime, n'est pas handicapée par la présence de la gangue dont je parlais, de la forme. Et donc, je ne sais pas si c'est un désaccord, je ne vais pas théoriser, justement. Mais en tout cas, ça ne me dérange pas. Et de temps en temps, oui, je peux être expérimental, mais plutôt dans la prose. parce que je trouve que dans la poésie formelle, il y a un vrai intérêt qui est de ne pas aller là où on a envie d'aller, qui est de casser l'idée du premier jet. On ne fait pas un sonnet du premier jet, on ne fait pas une villanelle du premier jet. On s'interroge sur la manière dont elle va tourner, dont elle va s'organiser pour que la mélodie soit, entre guillemets, avec toutes les limites que le mot peut contenir, pour que la mélodie soit belle. Voilà. Et ça, ça m'intéresse parce que je trouve qu'il y a justement une fluidité, une fécondité de la contrainte que je ne trouverais pas sinon. Et elles sont éprouvées, les contraintes. C'est-à-dire que les formes, elles naissent, elles meurent, elles disparaissent, elles reviennent. Il faut se souvenir que le sonnet a disparu pendant quasiment 2 siècles et que d'un seul coup, Baudelaire, puis Rimbaud, puis Verlaine ont décidé de le réutiliser. Mais il avait disparu. C'est-à-dire que tout le monde trouvait ça tellement débile de faire un sonnet. Et depuis, d'ailleurs, le sonnet est retombé dans l'oubli. Donc c'est intéressant de voir que, de temps en temps, des choses qui sont oubliées et semblent intéressantes peuvent donner naissance à des choses. Et le sonnet n'est pas seulement quelque chose qui est lié uniquement à une rime et à l'alexandrin, mais c'est une forme qui peut être utilisée dans d'autres choses, y compris dans le roman, par exemple. Il y aura des sonnets de chapitres, ça existe. Donc on peut faire plein de choses avec ces formes fixes. Et l'artisan peut aussi décider de faire... un service à thé plutôt que 25 tasses différentes. Enfin, c'est un débat. Hein, mais...
Benjamin Fouché, sur cette question de la contrainte comme création.
Non, mais je suis d'accord, il n'y a pas de désaccord profond. Moi, ce que je retiens de ce que dit Hervé, c'est justement, peut-être cette ligne de partage entre la prose et le vers, où il le dit lui-même, la contrainte est peut-être moins donnée d'office dans le choix de la prose. Même si on reprend l'exemple de Baudelaire, oui, Baudelaire, c'est celui qui a remis peut-être le sonnet au XIXe siècle à un certain moment, mais c'est aussi celui qui a écrit le Spleen de Paris, qui a inventé une prose expérimentale. Donc je pense qu'il n'y a pas de contradiction, qu'on peut faire les deux. Voilà. Enfin, ce que je retiens aussi, enfin, je trouve intéressant dans ce que dit Hervé, c'est la notion de série. Je travaille évidemment aussi, moi, c'est beaucoup par série. Bah, c'est des séries de mails. Le premier, c'était des séries de thèses ou d'axiomes qui reprenaient un petit peu le traité philosophique. Je travaille énormément par série aussi. Une fois que j'ai trouvé une forme, ben, je la décline, en effet. Voilà, à peu près pareil. Donc la contrainte, oui, enfin, mais je la trouve, quoi. Enfin, je l'invente. Je ne sais pas si je l'invente ou si je la trouve, en fait. J'en sais rien. Enfin...
Peut-être un peu les deux. Oui, si elle te trouve, ouais, c'est ça. Et est-ce que, justement, dans une fois cette contrainte posée par rapport à ce que vous avez à dire sur le texte du moment, est-ce qu'il y a, dans cette idée de série, une tentative d'épuisement de la forme, c'est-à-dire de... Parce que l'un comme l'autre, vous procédez par, voilà, notamment dans ces deux livres, plein de petites formes, finalement, on se retrouve avec facilement 400, 500 petits comptes liquides. Dans Les Merveilles du Monde, il y a voilà, tout un tas de mails qui continuent presque de s'épuiser au bout d'un moment, d'aller chercher en tout cas jusqu'à l'écœurement peut-être, ou jusqu'à l'épuisement, quelque chose à dire d'une réalité. Je vais revenir d'ailleurs sur la question de la réalité juste après, mais est-ce qu'il y a d'abord, avant que ça devienne un livre, une tentative d'épuisement de la forme pour voir jusqu'où elle vous mène?
Alors, ça dépend. C'est-à-dire, je me souviens, il y a des années, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable », qui était 1000 réponses à la question « À quoi tu penses ?». Donc, voilà. Quand on écrit un livre pareil, qu'on se fixe comme objectif d'écrire 1000 fois une phrase qui commence par « Je pense que », il y a un phénomène double que j'ai expérimenté, qui est celui au début de l'enthousiasme. Je suis très content d'avoir trouvé cette forme idiote qui ressemble un peu au « Je me souviens » de Pérec, hein, et qui me permet de décrire des choses comme « Je pense que lorsque je suis sur l'autoroute, on voit de très jolis châteaux où on aimerait bien habiter, et puis on se souvient qu'ils sont près de l'autoroute. » Voilà, c'est ce que j'appelle une pensée plate. Donc des pensées comme ça, au début on est content d'en trouver plein, et puis au bout de 300 on s'épuise, on se dit oh, j'ai plus d'idées là, Et à ce moment-là, on est forcé d'aller chercher quelques... On s'est quand même fixé l'objectif de 1000, parce qu'il y a cette phrase de... qui est 1000 pensées qu'on met toujours à la fin des cartes postales. Voilà. Et donc on se dit, ben, je vais aller jusqu'à 1000 pensées. Et donc ça, c'est un objectif absurde, parce que c'est... Pourquoi 1000 ? Bon, on compte par 10 parce qu'on a 10 doigts. Heureusement qu'on n'a pas 70 doigts, sinon ça ferait beaucoup de pensées. Et donc on s'est fixé cet objectif et on va jusqu'au bout. Et on voit qu'à partir de 300, on va chercher des méthodes pour en trouver d'autres. Et là, on va commencer à lire des livres qui sont des livres qui réfèrent à ce genre de choses et qui vont faire jaillir de nouvelles pensées qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui viennent de pensées d'autres. Et là, ça devient un système intéressant. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'avais beaucoup lu Ramón Gómez de la Serna. Je ne sais pas si vous connaissez Ramón Gómez de la Serna. C'est à la fois un écrivain qui écrit des choses très courtes et un pianiste des années 1930-1960, en gros, espagnol. Et Ramón Gómez de la Serna avait écrit dans ses nombreuses gregarias, je ne parle pas du tout espagnol, hein, je crois que ça se dit comme ça, gregarias, des petites formes, donc très courtes, et il racontait qu'à un moment donné, il rangeait sa paella, parce que c'est en espagnol, et qu'il mettait ses petites moules sur le côté, et que ça lui faisait penser aux gondoles à Venise. Bon. Et j'ai lu ça, et je suis allé ailleurs, et j'ai trouvé la... Je pense que les moules ont l'air d'être habillées pour aller à l'enterrement des huîtres. Ça vient comme ça, c'est-à-dire que ça vient à partir d'un saut de puce, à partir d'une idée que j'ai vue, parce que j'ai pensé aux gondoles, que les gondoles m'ont évoqué la scène dans Casanova de Pasolini, où on voit une gondole noire qui traverse sous le pont des Soupirs, c'est une image extrêmement présente. Et donc je suis arrivé à une idée d'enterrement et autre chose. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans la série. C'est qu'à un moment donné, il y a un épuisement. Vous disiez exhaustivité. On n'a pas le... C'est pas l'exhaustivité, puisque c'est dénombrable, la série. On sait qu'on va faire 40, on sait qu'on va faire 1000. Mais à un moment donné, il se passe un basculement où on va aller chercher ailleurs et où il va se débloquer quelque chose dans le narratif qui fait qu'on va réussir à aller au bout du projet tout en sachant que c'est un projet illimité, mais qu'on s'est fixé soi-même des limites. Mais je pense que dans la série, il y a ça qui est intéressant. C'est qu'on s'est fixé un but... et qu'on ira au bout de ce but. Et même parfois, on a dit qu'on ferait 50 villanelles, et on en fait 70, et on supprime 20 villanelles, parce qu'on sait qu'on s'est fixé ce projet de départ, et qu'on ne veut pas en faire plus, et qu'on est donc amené à faire du tri. Et le tri aussi est intéressant. Je trouve que le deuil des textes qu'on a écrits, c'est décisif pour arriver à être satisfait soi-même, pas forcément le lecteur, hein, mais au moins soi-même du projet abouti.
Benjamin, sur cette question de l'épuisement.
Oui, il y a une volonté d'épuiser la forme, mais c'est une volonté qui reste un peu illusoire. Enfin, ça n'a jamais vraiment de fin. Au bout d'un moment, on arrête, mais je pense qu'on arrête par dépit, parce qu'il faut mettre juste un terme, quoi. Il faut mettre un terme, mais je ne crois pas que ce soit possible véritablement d'épuiser comme ça. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir même d'unité ou quoi que ce soit, qu'une œuvre puisse... voilà. Moi, il y a un écrivain qui compte beaucoup pour moi, qui m'a beaucoup... c'est Francis Ponge. Mmh. Et justement, une des grandes leçons de Ponge, c'est que, bon, quand on regarde des livres comme La Fabrique Dupré, des choses comme ça, c'est sans fin, en fait. La forme tourne autour de la forme, c'est sans fin. Ça pourrait durer des années, des années, des années. Au bout d'un moment, il y a un terme qui est fixé, mais de façon purement arbitraire. En tout cas, l'unité n'existe pas, quoi. Voilà.
L'autre élément que m'évoquait la terminologie fabrique, c'était comment vous deux, dans notamment ces deux livres-là, mais dans bien d'autres, vous fabriquez de la fiction ou une forme de fiction à partir de la réalité. Donc comment des éléments de la réalité sont... tordu, déformé ou passé au filtre de ces séries, par exemple, ou de ces contraintes, qui permettent d'arriver à autre chose que juste une documentation de cette réalité. Par exemple, dans Les Merveilles du Monde, ces mails restés sans réponse, déjà, sont-ils réellement des mails qui ont été envoyés et sont-ils réellement restés sans réponse? Ou est-ce que c'est le procédé même d'écrire ces mails avec une destinataire qui fabrique le récit?
Certains ont été envoyés. Enfin, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par envoyer des mails qui sont restés sans réponse. Et puis, après, d'autres ont été plus ou moins fabriqués. Voilà. Après, la question, c'était...
Par rapport à la réalité.
Par rapport à la réalité.
Comment ça se tord ? À quel endroit ça devient de la fiction ? Est-ce que c'est par, justement, accumulation de mails sans réponse qui, dans leur formulation même, amènent vers autre chose que du réel ? Ou est-ce que c'est dans la réécriture ensuite de cette matière première ?
Je ne sais pas à quel moment ça devient de la fiction. En fait, c'est plutôt des choses qui se constellent, quoi. Il y a des expériences réelles, et puis c'est plutôt des constellations d'événements qui font que ça va se cristalliser de façon fictionnelle comme ça. Je ne saurais pas trop. C'est-à-dire, il y a par exemple le Satyricon. Le Satyricon de Pétrone, il y a la porte de la Villette, il y a des confinements, il y a des mails qu'on envoie sans réponse, il y a des tas d'éléments qui se cristallisent comme ça. Je ne saurais pas expliquer comment tout d'un coup ça bascule dans de la fiction. C'est plutôt des constellations de choses qui... Voilà.
Et c'est peut-être le frottement de ces constellations qui crée une étincelle de fiction ou...
Peut-être.
Bon. Libre interprétation. Hervé Letellier, dans les contes liquides, il est question de cet écrivain portugais que je vais encore écorcher, Jaime Montestrela.
Jaime Montestrela.
Jaime Montestrela, c'est comme ça qu'on le dit.
Je ne parle pas portugais non plus.
Ah bon, Pourtant, vous l'avez, semble-t-il, traduit.
Oui, oui.
Donc là, on est dans une forme d'écriture liée à une réalité, a priori. La réalité de cet écrivain dont on aurait retrouvé les écrits, un peu à la manière du coffre mystérieux de Péchoir. Enfin, il y a beaucoup de jeux avec les hétéronymes, etc.
C'est référencé à Péchoir. L'idée de la réalité m'intéresse. Oscar Wilde disait que la vie imite l'art, contrairement à l'idée fausse qu'on se fait que l'art imite la vie. Et je pense qu'il y a quelque chose dans la narration fictionnelle qui fait que la réalité, en fait, imite la fiction qu'on crée. C'est ça que j'aime bien dans cette idée de fausse érudition, parce que évidemment, quand on ne, c'est pas mentir que dire que j'ai inventé Montestrela, mais au début, j'ai réussi à faire croire pendant un certain temps qu'il existait. Donc ça, c'est l'objectif, en fait, du travail d'écrivain, c'est d'arriver à faire croire à ce que son personnage lui-même finisse par exister. C'est le rêve absolu. Ça ne durera jamais très longtemps, mais au moins on a quelques années de tranquillité. Il fait quand même partie des gens qui... Montestrela est dans le guide du Routard, parmi les cariocas célèbres. Donc je suis assez content de mon imposture. Le fait d'utiliser un personnage comme Jaime Montestrela, c'est-à-dire un pseudonymat, et surtout un pseudonymat qui n'est pas vraiment le mien, mais qui est une invention, fait que aussi au niveau de l'écriture, ça permet de travailler... Une langue qui n'est pas une langue, c'est pas la langue française qui est travaillée. Je travaille une langue dans laquelle il n'y a pas de jeu de mots, ou très peu de jeux de mots, parce que j'ai une tendance à utiliser la langue comme étant un support pour trouver des idées, et là je me le suis interdit. Et donc ça veut dire que de temps en temps il y a un jeu de mots. J'ai vérifié que c'était possible aussi en portugais. Par exemple, un bon nez, Jaime Montestrela dit que des scientifiques ont pu démontrer que quand une fausse blonde fait un faux mouvement sur du faux parquet, elle peut se faire vraiment mal. Ça, c'est possible parce que c'est utilisé en portugais. Donc on a le droit à ça. Et l'idée, c'était surtout d'utiliser des logiques du monde et de les retourner et de me dire qu'est-ce qui pourrait se passer si ces logiques s'étaient inversées. Par exemple, un vaisseau spatial qui atteint la vitesse de la lumière peut éteindre ses phares.
Ça semble absolument logique. Ouais.
Bah, oui, c'est fait des économies. Voilà. Donc ce sont des logiques, si vous voulez, qui viennent du monde réel et qu'on essaie de retourner pour voir ce qu'elles donnent. Voilà. Et ça permet de faire des comptes très courts aussi, parce que l'idée n'est pas d'aller au-delà du compte. C'est aussi une forme qui est une forme dangereuse, la forme courte. Hein. On ne le dit pas assez, mais parce que quand on fait une forme courte, ça peut plaire à certains, plaisent à certains, certains ne plaisent pas à d'autres. Donc on prend le risque de faire des contes qui, pour moitié d'entre eux, ne plaisent pas à tout le monde. Voire des contes qui ne sont pas compréhensibles pour certains parce que la référence culturelle n'existe pas. Ça, j'ai eu des échecs de lecture formidables à cause de ça. Donc, c'est là que le réel finit par être un handicap, en fait, parce que le moment où on fait référence à quelque chose de réel tue, en fait, l'effet du conte. J'en ai un que je vais vous faire tout de suite, parce que comme ça, c'est réglé. Je pense que je vais faire dans la lecture, mais comme ça, vous pourrez rire à la lecture. Parce que sinon, je raconte que des chercheurs historiens de Suisse ont prouvé que Guillaume Tell avait eu deux fils, dont un peu plus grand au destin malheureux. Bon, voilà, certains connaissent Guillaume Tell. Je peux me ramasser avec ce conte de manière assez systématique si la notion même d'histoire de Guillaume Tell est inconnue, ce qui est logique. Je rappelle que c'en est un qui... Guillaume Tell mettait une pomme sur la tête de son fils. Enfin, on avait force... Je crois que c'était un Français, un méchant Français qui avait forcé Guillaume Tell à tirer sur une pomme placée sur la tête de son fils. Voilà. Donc, les contes, l'aller-retour entre le réel et la fiction, ça permet ça aussi. Ça permet d'avoir un jeu, y compris au sens du jeu dans un meuble. Vous savez, les meubles dont un pied est un peu pété et qui bouge et ça fait du jeu. Il y a un peu ça dans la langue et dans la réalité quand on l'utilise en fiction.
Et c'est vrai que tous les deux, dans la manière dont vous tordez cette réalité, dans vos fabriques de textes, met en lumière, finalement, nos réalités contemporaines dans leur totale absurdité. Et j'ai l'impression que c'est ce frottement, ces agencements. Dans les contes liquides, il y a à la fois des choses qui sont complètement de l'ordre presque de la science-fiction, pour certains contes, d'autres qui sont des réalités historiques un peu tordues à des endroits, ou en tout cas décrites d'une certaine manière. C'est un peu la même chose dans Merveille du Monde, cette accumulation de mails, par exemple, qui semble tout à fait formelle, mais en fait crée une situation étonnante, un peu étrange ou un peu absurde, où on se rend compte de tout ce qu'on vit finalement au quotidien et dans lequel on n'a pas forcément ce miroir absurde. Alors, j'imagine que c'est intentionnel et en même temps, peut-être que ça apparaît en cours d'écriture, cette question de l'absurde, ou pas.
Déjà, quand j'ai écrit ce livre, on vivait une époque, une situation qui était un peu absurde. C'était les semi-confinements. Enfin, on devait pas sortir, mais on devait sortir. On avait des dérogations qu'on se remplissait tout seul. Enfin bon, bref, l'époque était déjà était bizarre, quoi.
Pour le moins.
Donc j'ai pas eu beaucoup de mal à, j'ai pas eu beaucoup de mal à atteindre l'absurdité. Voilà. C'est la situation de base, de départ qui était complètement absurde. Enfin, voilà.
Rajouter. Ouais. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hervé, sur cette question du frottement avec la réalité et de ce que ça met en lumière.
De toute façon, l'absurde, c'est qu'on va mourir. Donc c'est ça qui fonde en fait notre situation de mortel, quoi, qui est absurde. On est parmi les seuls animaux qui se rendent compte qu'on va mourir. Ça crée un rapport au monde un peu spécial, quoi, qui est un rapport de déni et qui est un rapport un peu d'humour, quoi. Si on n'a pas ça, on finit à l'asile ou en prison. Donc, je pense que l'absurde, il naît de ça. Bon, après, c'est un autre. Ça fait naître beaucoup de débats, mais je pense que la plupart des auteurs qui travaillent sur l'absurde, il y a une dimension, une dimension de rapport à ça, justement. Il y a forcément des rapports à la mort, des rapports à plein de choses qui sont cachées derrière, et qui animent en fait l'ouvrage et qui animent les fictions qui sont présentées.
Alors, en effet, ça ouvrirait d'autres débats, mais on n'a plus le temps, puisqu'on arrive à la fin de celui-ci. Mais quand même, une dernière chose, c'est sur la question du conte. Les contes liquides, on voit bien, dès le titre, à quel endroit on se situe. Benjamin Fouché, dans Merveille du Monde, il y a aussi des féeries, des détournements de contes, de récits plus ou moins connus, ou des synthèses parfois aussi de certains contes. Enfin, je dis synthèse, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, un prisme particulier pour rendre compte de Blanche-Neige, Cendrillon ou d'autres. Y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous attire l'un comme l'autre dans cette idée d'utiliser la forme du conte avec tout ce que ça induit de code pour l'amener ailleurs ? Ou alors, plus simplement, qu'est-ce que le conte a à dire qui vous intéresse de réexploiter dans vos écritures ?
Il y a quelques années, j'ai fait, à la demande de Ballant, on était plusieurs auteurs, on a fait des réécritures des contes de Perrault. Et j'ai repris un conte. J'avais la chance qu'on m'ait demandé parmi les premiers, et donc j'ai pris le conte que je préfère chez Perrault, qui est Le Petit Chaperon Rouge. Et c'est un conte qui est très prolifique, qui raconte un nombre de choses incroyables. Il y a une violence sexuelle, il y a quelque chose de l'ordre du secret. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue aussi au niveau de l'adolescence, du rapport au monde adulte. Bon. Donc le conte, les contes qui sont les contes un peu, comment dire, canoniques, contiennent tous ça. Et puis il y a aussi des individus qui écrivent des contes et qui ne sont pas canoniques et qui vont d'un seul coup le devenir. Enfin, les contes de Perrault ne sont pas forcément canoniques au départ. Mais parmi les auteurs qui écrivent des contes, on n'y pense pas souvent, mais il y a Borges. Mmh. Et Borges écrit des contes labyrinthiques, des contes métaphysiques, des contes philosophiques, et qui tous contiennent des réalités autres. Il y en a un en particulier de Borges qui s'appelle... c'est dans fiction, je crois, c'est la couleur de Dieu, ou le langage de Dieu, le langage de Dieu. Et c'est...
Pardon ? La langue de Dieu.
La langue de Dieu, la langue de Dieu. Et c'est... Merci. Et c'est il le lit dans les dessins de la pelure, enfin de la fourrure d'un jaguar. Un prisonnier voit un jaguar passer, il le voit passer pendant très peu de temps, mais le jaguar est... Et furtivement passe, et dans sa fourrure, il y a la langue de Dieu. Et ce prisonnier va essayer de la déchiffrer. C'est une idée complètement folle que Borges pousse au bout de sa logique. Et on voit bien qu'en fait, il a une idée et qu'il va la tirer comme un seul fil. Et c'est ça, souvent, le conte, c'est une idée unique peut-être, et qu'on tire jusqu'à la rendre à la fois absurde et parce qu'elle est absurde philosophique. Je trouve ça assez formidable dans la forme elle-même. Et c'est souvent ça qui fait qu'on arrive à écrire un conte, qui soit long ou court, c'est qu'on a une toute petite idée au départ et qu'on va la tirer au bout.
Benjamin, sur le conte.
Alors moi, c'est surtout dans le premier livre, du concept de féerie.
Oui, c'est ça.
Ouais. Il y a beaucoup de contes.
Je me suis mélangé dans tout ce que j'ai lu. Ouais.
Mais moi, ce qui me plaisait dans les contes, c'est justement que c'est des formes courtes, en fait. C'est des formes courtes et qui peuvent circuler rapidement. Voilà. Il me semblait que d'un point de vue... je croyais que c'était des formes qui étaient un peu stratégiques. Hein. C'est une idée que je reprends un peu dans le deuxième livre quand je parle des contre-fictions, des narrations communes, etc. Je trouve que le conte, dans sa forme courte, qui circule, qui est partagée par tout le monde, a cette efficacité-là. Quoi. Voilà.
C'était un beau mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Benjamin Fouché, Hervé Le Tellier. Il y avait Benjamin Adam aussi, qui est au fond de la salle, qui était noté là, mais en fait, c'était une erreur de typographie. Avec qui, Benjamin Fouché, vous venez de faire une performance dans le salon de musique. On retrouve Hervé Le Tellier tout à l'heure à 18h30 pour les contes liquides de Jaime Montestrella. J'ai essayé de bien le prononcer. Merci de votre écoute, et dans un instant, enfin vers 17h, c'est les 50e Hurlant, lecture concert de Tom Buron et Frédéric Aubin, que vous allez pouvoir aller voir dans le salon de musique. Bonne suite de festival.